Et avec l'histoire de Joseph, c'est certainement les plus belles. Enfin, ce n'est que mon avis. Il y a quelques années, j'avais déjà parlé sur ce chapitre-là, mais nous avions mis l'accent sur le fait que c'était l'ange de l'Éternel qui avait conduit le serviteur d'Abraham jusqu'à sa destination. C'est un texte qui parle sur le mariage, mais on ne parlera pas du mariage, parce que aujourd'hui je ne parlerai pas du mariage. Mais en tout cas, ce texte nous donne des indications, il nous donne des indications sur ce que doit être le mariage chrétien. Et dans le Nouveau Testament, ces indications-là sont reprises également par l'apôtre Paul. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter sur le verset 33, où il est dit « On plaça devant le serviteur d'Abraham de quoi manger, mais lui, il dit « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire ». Vous savez que dans la Bible, les noms ont une signification. Est-ce que vous savez ce que ça signifie Rebecca? Moi, je ne le savais pas. Donc, les dictionnaires sont faits pour ça. Dictionnaire biblique, s'entend, hein? Eh bien, Rebecca, ça veut dire une corde avec un nœud coulant. Et il y a encore un c'est-à-dire une jeune femme à la beauté ensorcelante. C'est un peu dangereux, une femme comme ça. Alors, le titre que j'ai donné ici à mon partage, c'est Le serviteur d'Abraham, mais c'est le serviteur modèle, parce que ce serviteur-là, c'est un serviteur modèle. Alors ce serviteur-là, il a reçu une mission, et on l'a lu, c'est pas difficile à comprendre quelle était la mission qu'il avait reçue. Il devait tout simplement prendre une épouse pour le fils de son maître, qui était l'héritier de la promesse. Moi, je n'aurais pas voulu être à sa place, parce qu'il ne fallait pas se tromper. Et le serviteur était bien conscient, lui aussi, de la difficulté de la mission, et c'est pour cela que nous le voyons s'adresser au Seigneur dans une prière bien précise que Ruben a lu au verset 13 et 14, où il dit, je dois un petit peu me rapprocher, « Me voici placé près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. » Donc, conscient de la difficulté de la mission, le serviteur d'Abraham formule cette prière précise. Et pourquoi est-ce que c'était important que la prière soit précise? Premièrement, du côté de Rebecca. Comme nous l'avons lu, Rebecca, comme nous l'avons dit et lu, Rebecca était une jeune fille à la beauté ensorcelante. Donc certainement qu'elle attirait les regards. Et la beauté, c'est loin d'être un inconvénient. Il y en a, je crois que tout le monde aimerait être beau. Mais la beauté, ça peut aussi être un piège. Et la beauté a été un piège pour plus d'un et pour plus d'une. Et dans la Bible, il y a des exemples de cela. Et l'un d'entre eux qui est célèbre, c'est celui de Samson, qui était fort, mais qui s'est laissé enjôler par la beauté d'une dame. Le serviteur, il ne pouvait pas rater son coup, parce que s'il se trompait, au lieu de recevoir les honneurs, il aurait reçu des reproches. Donc, il devait ramener une bonne épouse et surtout pas ni un hérisson, ni un cactus, ni une paillasse, ni autre chose de ce genre-là. Il y avait aussi de la difficulté du côté d'Abraham, parce que quand on est à la recherche d'une jeune fille pour quelqu'un d'autre et qu'on arrive avec 10 chameaux chargés et du personnel autour, ça peut faire tourner la tête de plus d'une jeune fille et aussi ça peut faire tourner la tête de ses parents. Donc il fallait faire bien attention pour ne pas être trompé par de belles paroles, ne pas se fier aux apparences, parce que celui qui veut vous tromper, il n'allume pas un voyant lumineux pour dire « Attention, je vais te tromper ». Donc, le serviteur avait besoin d'un grand discernement. Donc, ce serviteur avait vraiment de bonnes raisons d'adresser une prière très précise au Seigneur. Et c'est par le comportement de la belle Rebecca qu'il va comprendre. Quand elle va venir, elle va révéler ses qualités. Et nous avons lu au verset 18 qu'elle était polie. « Bois, mon Seigneur », a-t-elle dit. Elle était aussi serviable. Il est écrit, toujours au verset 18, « Elle s'empressa d'incliner sa cruche et de donner à boire au serviteur. » Et en plus de ces qualités-là, eh bien, elle est courageuse. Et sans qu'on lui demande quoi que ce soit, elle s'engage à donner à boire et à abreuver les 10 chameaux. Alors imaginez-vous, j'ai lu qu'un chameau peut boire entre 50 et 100 litres. Donc si on prend le minimum pour 10 chameaux à 50 litres, ça fait 500 litres. Et s'il a une cruche de 10 litres, quand on porte un seau de 10 litres, on le sent déjà, hein? Donc il y avait au moins 50 allers-retours. Et on a lu qu'elle descendait, elle remontait, et elle faisait ça en courant. Elle l'a fait jusqu'au bout. Elle l'a fait pour connaître, elle l'a fait sans connaître les intentions du visiteur. Parce que si elle avait su que c'est monsieur qui cherche quelqu'un, il ne fallait se montrer sous un beau jour. Elle a montré par ce service qu'elle était aussi une personne désintéressée et qui servait gratuitement, sans arrière-pensée. C'est une qualité supplémentaire de la jolie Rebecca. Et au verset 21, eh bien, nous avons vu que le serviteur, il observe ça et qu'il est tout en admiration devant ce qui se passe. Alors, au verset 26 et 27, nous avons lu qu'il s'incline, il se prosterne et il adore, il remercie le Seigneur de l'avoir conduit. Il était certainement soulagé du déroulement de la journée jusqu'à présent. Et on peut déjà retenir que le Seigneur, il veut nous conduire d'une aussi belle manière aussi. Et dans les chants qu'on a chantés au début, il y en a quelques-uns que le serviteur d'Abraham aurait pu chanter. Par exemple, « J'ai confiance en mon Seigneur ». Il allait là dans l'inconnu. Il allait dans l'inconnu. « J'ai confiance en mon Seigneur tout le long du chemin ». Et il aurait encore pu chanter « Sans ta lumière, Seigneur, sans ta lumière, je vais où, moi? Qui est-ce que je vais trouver, là? Comment ça va se passer ?» Mais le Seigneur l'a accompagné et il veut nous accompagner de la même façon. Mais avec tout ça, la journée n'est pas finie. Il n'a pas encore commencé sa mission. Nous le retrouvons au verset 33, ce serviteur, à table. Il est invité à manger et lui, il dit « Non, je ne mangerai pas ». Et il a l'air d'être assez ferme. Alors voilà, à vol d'oiseau, de Beersheba à Haran, à vol d'oiseau, il y a environ 850 kilomètres. Combien de jours est-ce que ça a duré? Et ce n'était pas un voyage en business class avec climatisation. Après un si long voyage, après certainement une grande fatigue, après ces émotions de la journée, il aurait pu être impatient de manger, de se reposer, mais lui, il refuse. Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. La faim, la fatigue, ça peut attendre. Moi, j'ai une mission à remplir. Et cette mission, même si j'ai faim, si je suis fatigué, elle reste ma priorité. Ceci révèle une qualité de ce serviteur. Il y a une autre qualité, c'est qu'il est honnête. Il joue carte sur table. Il ne veut pas que un bon gueuleton où l'on mange et où l'on boit à l'excès vienne fausser son entreprise. Il ne veut pas que l'effet du vin que l'on aurait éventuellement servi, ramollisse sa détermination. Alors, il y avait encore un effort à fournir pour mener à bien la mission. Mais quel bonheur quand c'est fini. Dans le Nouveau Testament, il est aussi fait mention de quelqu'un qui était fatigué, qui avait faim, qui avait soif, et qui a refusé de manger quand on lui a apporté. Ça se passait en Samarie, dans la ville de Sichar, près du puits de Jacob. Le Seigneur la devait rencontrer et transformer la vie d'une femme qui était insatisfaite. Les disciples étaient revenus avec leurs emplettes, et ils disent « Rabbi, mange !» Et Jésus leur répond « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Est-ce que le Seigneur voudrait nous faire mourir à l'ouvrage? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, dans les versets 30 et 31, il est raconté que, après être rentré de mission, après avoir raconté au Seigneur ce qu'ils avaient fait pendant leur mission et ce qu'ils avaient enseigné, le Seigneur Jésus leur a dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous. Ils sont allés dans un lieu à l'écart pour se reposer. Malheureusement, vous savez que ça n'a pas duré longtemps, le repos. La renommée du Seigneur, elle était grande. On le cherchait. Et les gens, quand ils l'ont trouvé, eh bien, ils en ont appelé d'autres. Et il y a eu une foule qui écoutait, qui buvait les paroles du Seigneur et qui avait faim à la fin. Et c'est là que le Seigneur les a tout de suite mis à l'ouvrage à l'occasion de la multiplication des pains. Et c'est quelque chose qui n'a pas changé encore aujourd'hui. Quand quelqu'un veut travailler, eh bien, toujours quelqu'un qui tombera dessus pour lui demander de faire quelque chose. Que ce soit pour travailler, pour chanter, et pour tout ce qu'il y a à faire. Quand on est d'accord de travailler, il y aura toujours quelqu'un qui pensera à nous à cette occasion-là. Mais le Seigneur n'a jamais voulu faire mourir personne à l'ouvrage. Vous vous souvenez que, après la résurrection du Seigneur Jésus, au retour d'une pêche qui était d'abord infructueuse et puis qui était devenue miraculeuse, le Seigneur leur a indiqué un brasier avec du poisson grillé et du pain posé dessus. Et au verset 12, il était écrit que le Seigneur les a invités à manger. « Venez manger, leur dit-il, après leur avoir fait apporter quelques poissons de la prise qu'ils venaient de faire. » Et en question de repas, je peux vous dire que le Seigneur, il sait y faire. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25, le Seigneur parle d'un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, des mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux et clarifié. Je ne saurais pas vous dire quand ça va se passer, mais c'est une promesse que Dieu fait dans l'Ancien Testament, au chapitre 25 du verset d'Ésaïe. Pardon. Du livre d'Ésaïe. Je crois que je devrais boire un petit coup d'eau. Alors, j'ai déjà dit que le chapitre 24 de la Genèse était le plus long chapitre de la Genèse. Ce chapitre raconte et répète en long et en large la mission qui avait été confiée aux serviteurs. Mais il ne dit rien de l'accueil qui a été réservé au serviteur à son retour pour avoir déniché une perle comme Rebecca. Donc ici, j'ai brodé en disant que ça m'étonnerait que le serviteur n'aurait pas été honoré à son retour pour avoir accompli cette mission. Par contre, ce qui est certain et qui n'est pas brodé, c'est que le Seigneur Jésus, dans les évangiles, il a parlé d'un maître qui, quand il retrouve ses serviteurs, le maître met sa ceinture. Et quand on mettait sa ceinture, quand on était habillé de robe, ça veut dire qu'on qu'on va travailler pour ne pas s'empêtrer dans les pans de sa longue robe. Donc c'est le serviteur qui met sa ceinture et qui va se mettre au travail. Et le Seigneur dit qu'il va faire asseoir ses serviteurs à lui, qu'il va s'approcher d'eux et qu'il va les servir. Quel honneur pour ces serviteurs qui sont ainsi servis par leur maître. Il y a quelques années, un animateur radio recevait des gens qui avaient fait des choses spéciales dans leur vie, des voyages, des expéditions. Et un jour, il recevait un chasseur d'autographes. Et il racontait tous ceux, toutes les vedettes, les gens célèbres qu'il avait rencontrés et desquels il avait reçu un autographe. Et il a raconté, avec assez bien de détails, sa rencontre avec une vedette de la chanson française qui est mort maintenant, mais qui avait reçu un surnom qui est en rapport avec l'électricité. Peut-être que certains le situent déjà. Hein? Alors, ce chasseur d'autographes, il attendait à l'entrée des artistes l'arrivée de cette vedette. Et la vedette, comme beaucoup de vedettes, se faisait attendre. Mais pour finir, voilà qu'il arrive. Et le jeune homme se précipite vers lui avec son carnet et avec son stylo. Et voilà, il avait attendu tellement longtemps, il faisait tellement froid que le stylo était gelé. Et la vedette n'avait pas de stylo sur elle. Donc, pas d'autographe. Désolé. Facile à dire. Et puis, la vedette s'en va pour enfin arriver en scène. Et il constate que le jeune homme ne le suit pas. Et il dit, tu ne viens pas? Je n'ai pas de ticket, je n'ai pas assez d'argent. Bien, tu viendras dans ma loge. Et il a assisté au récital dans les coulisses. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le lendemain, il a invité le jeune homme et toute sa famille à monter sur la scène en disant, voilà quelqu'un qui m'a attendu dans le froid, qui m'a patiemment attendu dans le froid. Et je voudrais que vous l'applaudissiez. En Hébreu 2:11, il est dit de Jésus qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et au verset 13, il est dit, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Quel moment émouvant quand il présentera ses rachetés à son Père. Dans l'évangile de Luc au chapitre 22, Jésus dit à ses disciples ceci. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur ne saurait pas faire moins pour ses serviteurs que cette vedette-là a fait pour ce jeune admirateur. Pourra-t-il seulement nous honorer, malgré son désir de vouloir le faire? Pourra-t-il seulement le faire? Dans le livre de Samuel, Dieu s'adresse au souverain sacrificateur Élie en lui disant « J'honorerai celui qui m'honore. » Mais Dieu a dû adresser des reproches sévères et il a dû déshonorer son souverain sacrificateur parce que ce souverain sacrificateur avait honoré ses fils plus que Dieu lui-même, alors qu'il savait que ses fils avaient une conduite scandaleuse. C'est un père qui avait confondu les priorités. Mais c'est quelque chose qui pend au nez de chacun de nous. Confondre les priorités, mettre les priorités à la mauvaise place. Lors d'une des récentes réunions de prière, un frère a exprimé avec force sa reconnaissance pour le beau bâtiment qui nous abrite et ses commodités. Il a aussi prié pour le respect et l'entretien de ces lieux et de ses abords. Et il a aussi prié pour qu'il y ait assez de volontaires pour que la charge soit uniformément répartie. Pourtant, ce frère n'est pas celui qui fréquente l'Église depuis le plus longtemps, mais c'est quelque chose qu'il a à cœur. Ensuite de cela, un autre frère a enchaîné et a remercié le Seigneur lui aussi avec beaucoup d'émotion pour ceux et celles, pour les sœurs et pour les frères qui veillent sur la propreté des lieux, sur la sécurité des lieux et sur le confort. Michael a évoqué du 10 au 16 juillet mission vacances. Et nous pourrions faire à cette occasion-là notre la prière du serviteur d'Abraham quand il a dit « Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui celui ou celle que le Seigneur cherche pour l'amener dans sa maison. » Et agis avec bienveillance. Après quoi, après avoir participé à Mission Vacances, nous pourrions remercier le Seigneur de la même façon que le serviteur d'Abraham, et nous pourrions dire « L'Éternel a guidé mes pas vers celle et vers celui qu'il voulait sauver. » Un de nos frères qui s'est énormément investi dans la reconstruction de cette église. Ce que vous voyez ici devant, ce que vous voyez là devant, ce que vous voyez à l'entrée, c'était son travail. Aujourd'hui, il gît sur un lit d'hôpital dans une grande détresse morale et sans espoir de retour. Nous connaissons le discours, le célèbre discours de Matthieu 25. J'étais malade et vous m'avez visité. Et aussi, j'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait, quelle déclaration le Seigneur pourrait-il nous faire à propos de notre frère? Et il y a aussi nos sœurs âgées que nous ne voyons plus et nos sœurs malades. Le Seigneur a une mission pour chacun. La mission du serviteur d'Abraham, c'était de chercher une bonne épouse pour l'héritier de la promesse. Et c'était de loin la mission la moins facile. Le Seigneur, il a une mission pour nous, il a une mission pour moi. Et il a une mission pour vous. À chacun sa tâche, Et comme je l'ai dit, pour celui et celle qui est d'accord de travailler, il y aura toujours de quoi faire parce que les besoins sont nombreux et variés. Maintenant, Jean-François va allumer le projecteur et on va lire le résumé de l'histoire d'un cantique que nous allons ensuite chanter. Ça ne va pas? Plaît? Comprends pas. Ah, bon. Alors je vais lire. On s'est mal compris. Voilà. Un jeune homme de 30 ans gisait dans son lit, gravement malade. Un mois avant sa mort, il avait accepté Jésus comme son sauveur. Un jour, un ami qu'il avait trouvé soucieux et qui lui en avait exprimé la surprise, le malade répondit : Non, je n'ai pas peur de mourir. Mais, oh, dois-je vraiment partir les mains vides? Ce sont ces paroles et ces circonstances qui ont inspiré à C.A. Daniel les paroles anglaises de ce cantique dont nous sommes heureux de donner la traduction. Alors maintenant, on va afficher le cantique et les musiciens peuvent venir pour nous accompagner. Mais ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. On chantera encore. Voilà, ce n'est pas encore fini, mais ce ne sera plus long. Parce que si avec l'aide de Dieu, nous arrivons à faire la tâche, à accomplir la mission qu'il nous a commander, il peut y avoir du danger aussi pour nous. Si nous avons mis la main à la pâte, alors que le Seigneur nous préserve de l'orgueil, que nous fassions attention aux gros coups, parce que ça peut grandir vite. Devons faire attention à notre auto-satisfaction, à notre auto-congratulation. Dans l'évangile de Matthieu, vous vous souvenez qu'à un moment donné, maman Zébédée demande à Jésus : Je voudrais que mes fils soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Nous savons quel a été le résultat de cette demande parmi les disciples. Ça s'est terminé par de l'indignation, par de la jalousie et par des disputes. Et c'est pour cela, et pour cette raison, que pour nous épargner des relations pénibles qui peuvent vite devenir détestables et invivables, que le Seigneur a raconté dans l'évangile de Luc au chapitre 17, la parabole des serviteurs inutiles. Quand il a dit « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé, vous êtes des serviteurs inutiles. » Qu'est-ce que ça veut dire au juste, ça, hein? Il y a quelqu'un qui a posé la question quand on a fait la méditation. En tout cas, ça ne veut pas dire, que ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que le travail que tu as fait, c'est un travail qui est sans valeur. Quand le Seigneur a dit, quand vous aurez fait tout ce qui vous avait demandé, vous êtes encore des serviteurs inutiles, ça veut dire que tu l'as fait, c'est vrai, mais tu n'as aucun mérite particulier de l'avoir fait, parce que c'était ta mission. Et si tu l'as fait, je suis heureux, mais tu n'as pas le droit de réclamer une récompense exceptionnelle parce que tu as fait ce qui t'était demandé. Parce que nous ne méritons rien. Ce que nous méritons, c'est ce qu'il y a derrière moi et devant vous. C'est la croix. Parce que chacun de nous, nous étions des rebelles. Chacun de nous, nous étions égarés. Nous suivions chacun notre voie. Nous obéissions chacun au penchant de notre cœur. Et c'est le Seigneur Jésus qui, lui, a reçu ce qu'il ne méritait pas. Un de nos cantiques dit ceci, « Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. » Dans le premier cantique que nous venons de terminer, nous avons vu les regrets d'un homme encore jeune, 30 ans, chargé de regrets parce qu'il avait vécu pour lui, au lieu de vivre pour le Seigneur. Je vais vous lire maintenant un texte court du pasteur Frédéric Travier, je ne le connais pas, mais qui lui aussi parle d'un autre jeune homme qui a vécu différemment. Un professeur de chirurgie était sur le point d'opérer un jeune agriculteur d'un cancer de la langue. Quelques étudiants entouraient la table d'opération pendant les derniers préparatifs. Le praticien avertit le malade que, dans le meilleur des cas, il devait s'attendre à perdre la parole après cette opération. Si vous avez encore un souhait ou quoi que ce soit à exprimer à haute voix, faites-le maintenant, lui suggéra-t-il. Et dites-vous bien que ce sont les derniers mots que vous allez prononcer. Quand vous vous réveillerez après l'opération, vous serez muet. Tous attendaient avec curiosité le dernier message du jeune homme. Celui-ci ferma un instant les yeux, puis énonça d'une voix claire et ferme. Gloire à Jésus-Christ. Les assistants furent saisis, et le professeur eut de la peine à contenir son émotion. L'opération se déroula avec succès. La perte de l'usage de la parole n'empêcha pas ensuite le jeune homme de trouver sa joie dans son Sauveur ainsi qu'un sens à son service pour le Maître. Voilà deux jeunes vies fort différentes l'une de l'autre. Une vie qui avait vécu pour soi et l'autre, malgré malgré cette épouvantable mutilation de la langue, il a quand même servi son Seigneur. Alors, en quoi, pour résumer, en quoi le serviteur d'Abraham était-il un serviteur modèle? Il est un modèle en ce qu'il s'est appuyé sur le Seigneur, parce qu'il ne trouvait pas en lui la sagesse nécessaire. Il est un serviteur modèle parce qu'il ne s'est accordé aucun repos avant d'avoir terminé sa mission. Il est un serviteur modèle à cause de son honnêteté. Il a joué carte sur table. C'est un serviteur modèle parce que il ne s'est pas attribué la gloire du succès, mais il s'est prosterné, il a remercié et il a adoré celui qui l'avait conduit. Que le Seigneur nous soit en aide à chacun et à chacune. On va chanter, pour nous encourager, le cantique numéro 418 sur les ailes de la foi. Vous pouvez vous relever.